Le microbe volé par Herbert George Wells. Et ceci, dit le bactériologiste en glissant une lame de verre sous le microscope, c'est un spécimen du bacille du choléra, le microbe du choléra. L'homme à la figure pâle se pencha sur l'instrument, mais sans doute n'avait-il pas l'habitude de s'en servir car au bout d'un instant, s'étant masqué l'œil gauche d'une main blême et mobile, il déclara « Je distingue très mal ». « Tournez cette vis, » lui explique le savant. « L'appareil n'est peut-être pas au point pour vous. La vue varie tellement selon les individus. Essayez de tourner très légèrement dans un sens ou dans l'autre. »« Ah, cette fois je distingue très nettement, » annonça le visiteur. « Et pourtant, cela se résume à bien peu de choses en somme. Quelques petites lignes, quelques minces filaments rosés, voilà tout. Et néanmoins, ces parcelles infinitésimales, ces atomes, pourrait se multiplier, dévaster une ville entière. En vérité, c'est stupéfiant. » Il se redressa, et dégageant la lame de verre de l'instrument, l'éleva à bout de bras dans la lumière de la fenêtre. « À l'œil nu, c'est presque invisible, » constata-t-il après l'avoir examiné un instant. Il parut hésiter une seconde, puis demanda. « Et ces molécules sont vivantes? Elles sont réellement dangereuses en ce moment? Non, celles-ci ont été stérilisées et sont mortes. » répondit le bactériologiste. Plût au ciel que l'on pût en faire autant de toutes celles qui se sont répandues à travers le globe. Vous ne vous soucieriez sans doute pas, poursuivit l'homme pâle en souriant du bout des lèvres, d'avoir constamment auprès de vous de pareilles choses à l'état vivant, à l'état nuisible. Détrompez-vous, nous y sommes bien forcés, au contraire, nous autres savants, répondit le bactériologiste. Et la preuve, tenez, continua-t-il en traversant son cabinet, et en choisissant parmi plusieurs autres un tube de verre cacheté de cire, c'est que voici un échantillon vivant, un véritable spécimen du microbe du choléra morbus. C'est ce qu'on pourrait appeler du choléra en bouteille, conclut-il après avoir hésité un instant. Une lueur de satisfaction passa sur la figure de l'homme pâle. C'est une chose bien dangereuse à garder chez soi, déclara-t-il en dévorant des yeux le petit tube. Le savant le considéra avec attention, observant le plaisir morbide qui se peignait sur les traits de son interlocuteur. Cet homme, qui était venu le voir cet après-midi, avec un mot d'introduction d'un de ses vieux amis, l'intéressait par le contraste absolu de leur manière de voir. Cet inconnu, aux longs cheveux noirs, aux yeux gris et profonds, à l'expression inquiète et aux gestes nerveux, l'intérêt capricieux et néanmoins profond qu'il prenait à ce qui lui était montré, avait pour lui, accoutumé qu'il était aux flegmatiques façons d'être de ses collègues, l'attrait d'une nouveauté. Aussi, poussé par un sentiment bien naturel devant un auditeur si visiblement impressionné par le caractère tragique de ce sujet, se complut-il à lui faire envisager la question sous son aspect le plus impressionnant. Et prenant le tube entre ses doigts, l'air songeur, il reprit. « Oui, voici le fléau captif dans cette fragile prison de verre. Briser seulement un petit tube comme celui-ci dans une source d'eau servant à l'alimentation, dites à ces infimes parcelles de vie qu'il est nécessaire pour les voir de colorer et de grossir des milliers de fois et dont la présence ne se révèle ni par le goût ni par l'odorat, dites-leur, allez, croissez et multipliez et remplissez les citernes. Et la mort, une mort mystérieuse dont nul ne pourra retrouver l'origine, une mort prompte et terrible, une mort pleine de douleur et d'indignité, sera déchaînée sur cette ville et s'en ira de ci de là à la recherche de ses victimes. Ici, elle enlèvera le mari à sa femme, là, l'enfant à sa mère. Plus loin, elle empêchera l'homme d'État d'accomplir son devoir. Ailleurs, elle délivrera l'ouvrier de ses peines. Elle suivra les conduites d'eau, s'insinuera à travers les rues, châtiant sur son passage telle ou telle maison dont les habitants n'auront pas eu la prudence de faire bouillir l'eau qu'ils boivent, se glissera dans les puits des fabricants d'eau minérale, s'accrochera au passage sur la salade qu'on lave, s'endormira dans les glaces préparées pour les banquets. Les chevaux la boiront dans les abreuvoirs, et les enfants en se désaltérant sans méfiance aux fontaines publiques. Elle s'infiltrera dans le sol, pour reparaître dans les sources et dans les puits, à mille endroits insoupçonnés. Lâchez-la un seul instant, et avant que nous puissions lui courir après et nous en rendre maîtres à nouveau, elle aura décimé la capitale entière. » Il s'interrompit brusquement. Ne lui avait-on pas dit avec juste raison qu'il avait un faible pour la rhétorique ? Mais soyez tranquille. Pareille calamité n'est pas à craindre. Il n'y a pas de danger que le choléra sorte de ce tube. » L'homme à la figure pâle hocha la tête. Ses yeux étincelaient. Il toussa pour s'éclaircir la voix.
Les anarchistes. Ces canailles d'anarchistes,
dit-il, sont des sots et des ignorants. De se servir de bombes, alors que l'on a sous la main des armes si redoutables, il me semble. À ce moment, on frappa très légèrement à la porte. Le savant s'en fut ouvrir.
Pourrais-tu venir un petit instant ? Lui demanda sa femme à voix basse.
Lorsqu'il rentra dans son laboratoire, il trouva l'inconnu en train de consulter sa montre.
« J'ai été loin de me douter que je vous avais retenu pendant une heure, » dit-il.
« 4h-12.
J'aurais dû vous quitter à 3h30. Mais ce que vous m'avez montré était si intéressant. Non, vraiment, je ne puis rester une minute de plus. J'ai un rendez-vous à 4h. »
Il sortit en se confondant en remerciements, tandis que le savant, après l'avoir reconduit jusqu'à la porte, s'en revenait, pensif, le long du corridor qui menait à son laboratoire. Il se demandait quelle nationalité pouvait appartenir son étrange visiteur. Ce n'était évidemment pas un type de teuton ni de latin quelconque.
Quoi qu'il en soit, conclut-il à part soi, c'est un individu de caractère bien morbide, je le crains. De quelle singulière façon il couvait du regard ces germes de maladie.
Tout à coup, une pensée inquiétante lui vint à l'esprit.
Il se tourna d'abord vers le banc qui se trouvait près du bain de vapeur et ensuite, très rapidement, s'approcha de son bureau. Puis, de plus en plus inquiet, il tâta successivement toutes ses poches, mais n'y trouvant pas ce qu'il cherchait, il courut à la porte.
« Je l'aurais peut-être laissé sur la table du vestibule » murmura-t-il. « Minnie »
appela-t-il d'une voix étranglée.
« Me voilà, mon ami » lui répondit de loin une voix de femme. « Sais-tu si j'avais quelque chose à la main tout à l'heure quand tu m'as appelé ?»
Une pause.
« Non, non, mon ami, tu n'avais rien, car je me souviens.
« Miséricorde !»
s'écria le bactériologiste, et sans perdre un instant, il courut à la porte d'entrée, dégringola les marches du perron et se précipita dans la rue. Minnie, entendant la porte claquer avec violence, s'élança, tout alarmée, vers la fenêtre. Un peu plus bas dans la rue, un homme d'aspect chétif était en train de monter dans un cab. Le savant, tête nue et chaussé de ses pantoufles en tapisserie, courait à toutes jambes dans cette direction en se livrant à une gesticulation désordonnée. L'une de ses pantoufles se défit, mais il ne s'arrêta même pas pour la ramasser.
« Ma parole, il est devenu fou, complètement fou !» gémit la pauvre Minnie.
« C'est son abominable science qui lui a tourné la tête. »
Et ouvrant la fenêtre, elle s'apprêtait à l'appeler. Mais au même moment, l'homme chétif, s'étant soudain retourné, fut comme frappé à son tour d'un accès de folie. D'un geste fébrile, il désigna le vieux savant, jeta quelques mots au cocher. Le tablier du cab se rabattit, le fouet claqua, le cheval battit le pavé de ses 4 sabots, et un instant après, le cab, toujours suivi du bactériologiste qui lui donnait la chasse, parvint au bout de la rue et disparut en tournant. Minnie continua d'écarquiller les yeux à la fenêtre pendant 1 ou 2 minutes encore, puis elle se retourna vers la chambre en proie à la plus profonde hébétude.
« Je sais bien qu'il est excentrique, » murmura-t-elle, « mais de là à courir dans les rues de Londres en chaussettes, et dans le plein de la saison par-dessus le marché. »
Une heureuse inspiration lui vint. En hâte, elle mit son chapeau, ramassa les bottines de son mari, gagna le vestibule, y décrocha le pardessus et le haut de forme du vieux savant pendu au porte-manteau, ouvrit la porte de la rue, et alla un cab en maraude qui, par bonheur, passait par là.
« Vous allez remonter la rue, et vous prendrez par Hablo Crescent, » expliqua-t-elle au cocher. « Ensuite, vous regarderez si vous n'apercevez pas un vieux monsieur nu-tête et habillé d'un veston de chambre. »
« Nu-tête avec un veston de chambre. Bien, madame. »
Et placide, comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde, comme s'il avait l'habitude de conduire journellement des clients à pareille adresse,
l'automédon réveilla Cocotte d'un coup de fouet et se mit en route.
Quelques instants après, le petit groupe de cochers et de flâneurs qui se rassemblent chaque jour autour du kiosque de Haverstock Hill
eut la surprise de voir passer un cab attelé d'une rose couleur pain d'épices filant à toute allure.
Sur le premier moment, personne ne dit mot, puis un gros homme grommela.
« C'est Harvey Hicks. Où diable peut-il bien aller de ce train-là »
« Il ne ménage guère sa bête, en tout cas, » répondit un palefrenier.
« Eh, mais le diable m'emporte !» s'écria un autre. « En voilà un deuxième qui court au moins aussi vite. »«
Ça, c'est Georges, » déclara le gros homme. « On dirait qu'il court après Harvey Hicks. »
À la vue de cette course échevelée, tous ceux qui flânaient autour du kiosque s'animèrent et se mirent à crier en chœur.
« Vas-y, Georges, ils font la course. Tu vas le rattraper.
Fouette, mon vieux, fouette !»«
Elle marche bien tout de même, sa jument, » constata le palefrenier.
« Mais, saperlotte, en voilà encore un qui débouche là-bas. Ma parole, c'est à croire que tous les caps de Hampstead sont devenus fous ce matin. »
« Cette fois, c'est une femme qui est dans la voiture, » dit le palefrenier.
« Qu'est-ce qu'elle tient donc à la main ?»«
C'est pas. Ça m'a l'air d'être un chapeau haute forme. »
« Jamais de ma vie, je n'ai tant ri, » dit le palefrenier.
« Je parie 3 contre 1 sur ce brave Georges. À qui le tour, à présent ?»
Minnie passa au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Pareille ovation était loin de lui plaire, mais elle avait le sentiment qu'elle accomplissait son devoir. Et sans fléchir un seul instant, elle dévala Haverstock High et passa comme une trombe dans Camden Town High Street, les yeux immuablement fixés sur le cocher Georges qui fouettait toujours, s'évertuant avec un zèle qu'elle ne s'expliquait pas, à lui ravir coûte que coûte son mari.
L'homme qui occupait le premier cab se tenait ramassé dans un coin, les bras croisés sur la poitrine, et tenait dans sa main crispée le petit tube qui renfermait des possibilités de destruction si prodigieuses. Il était dans un état d'esprit bizarre, où il y avait à la fois de la peur et de l'exaltation. Peur d'être rattrapé avant d'avoir atteint son but, et peur aussi, plus vague mais plus profonde, de l'énormité de son crime. Néanmoins, son exaltation l'emportait de beaucoup sur sa peur. Aucun autre anarchiste avant lui n'avait conçu un attentat d'une envergure aussi grande que le sien. Rabachol, Vaillant, tous ces illustres personnages dont il avait envié la renommée, devenaient auprès de lui des individus tout à fait insignifiants. Il n'avait plus qu'à se faire indiquer les réservoirs de la ville et à briser dans l'un d'eux son petit tube de verre. Avec quelle habileté il avait su combiner son plan, se fabriquant une fausse lettre d'introduction pour s'ouvrir la porte du laboratoire, et avec quelle adresse il avait su profiter de l'occasion qui s'était présentée. Cette fois, enfin, le monde allait entendre parler de lui. Tous ceux qu'il avait raillés, tous ceux qu'il avait négligés, tous ceux qui lui en avaient préféré d'autres, tous ceux qui l'avaient fui comme un compagnon indésirable, tout cela allait enfin apprendre à le considérer. Ah, on l'avait toujours traité comme une quantité négligeable. Ah, on s'était toujours entendu pour le fouler aux pieds et l'empêcher d'arriver à quelque chose. Eh bien, rirait bien qui rirait le dernier. Il leur apprendrait ce qu'il en coûte de vouloir isoler un homme du reste du monde. Ne tenait-il pas maintenant leur sentence de mort à tous ces gens-là, dans le creux de sa main ?
Mais quelle était cette rue d'aspect familier ? Ah oui, Great St. Andrew Street, évidemment.
Où en était-elle la poursuite à présent ? Il se pencha en dehors du cab. Hélas, le vieux savant n'était plus qu'à 50 mètres de lui à présent. On allait le rattraper malgré tout et l'empêcher de mettre à exécution son sinistre projet. Comment faire ? Il fouilla dans sa poche, pour y chercher de l'argent et y trouva un demi-souverain.
« Tenez »
cria-t-il au cocher en lui passant la pièce d'or par la petite trappe pratiquée dans le toit du cab.
« Prenez ceci. Il y en aura autant pour vous si nous échappons à celui qui nous poursuit. »
La pièce lui fut arrachée de la main.
« Entendu !»
dit le cocher en reclaquant la trappe et en cinglant d'un grand coup de fouet le flanc luisant de son cheval. Le cab oscilla, et l'anarchiste, qui n'avait pas eu le temps de se rasseoir, s'appuya au tablier de la main qui tenait le petit tube pour ne pas perdre l'équilibre. Il entendit le frêle objet se briser et un morceau de verre tomba sur le plancher de la voiture. Alors, proférant un juron, il retomba assis sur la banquette et regarda avec hébétude les 2 ou 3 petites gouttes humides qui s'étaient attachées au tablier. Un frisson lui passa de la tête aux pieds.
« Enfin tant pis, » murmura-t-il, « ça sera moi le premier. »«
Bon, en tout cas je pourrais me vanter d'avoir été un martyr. » C'est déjà quelque chose.
Mais c'est une mort atroce malgré tout. Je me demande si l'on souffre autant qu'on le dit. Tout à coup, une idée lui vint.
Il tâta entre ses pieds. Il y avait encore, dans l'extrémité rompue du tube, une petite goutte de liquide, et pour plus de sûreté, il la but. De cette façon-là, du moins, il serait sûr du résultat.
Plus n'était besoin désormais de chercher à échapper au vieux savant.
Arrivant de Ellington Street, il ordonna au cocher de s'arrêter et descendit. En posant le pied sur le marchepied, la tête lui tourna et il faillit tomber. Cela agissait vraiment vite, ce poison du choléra. Il fit un geste vague comme pour congédier son cocher, puis se planta sur le trottoir, les bras croisés, pour attendre le bactériologiste. Il y avait dans son attitude quelque chose de tragique. La perspective de la mort imminente lui donnait une certaine dignité, et ce fut avec un éclat de rire arrogant qu'il accueillit le vieux savant.
« Vive l'anarchie !»
Vous arrivez trop tard, mon ami. Je l'ai bu. Le choléra est déchaîné. »
Le vieux savant le regarda curieusement du fond de son cab à travers ses lunettes.
« Vous l'avez bu ? Vous êtes anarchiste ? Ah, je comprends à présent. »
Il était sur le point d'ajouter autre chose, mais il se ravisa. Un sourire s'attachait au coin de sa bouche. Le voyant s'apprêter à descendre, l'anarchiste le salua d'une inclination de tête solennelle, puis s'éloigna dans la direction du pont de Waterloo, en ayant soin de frôler le plus de monde possible avec son corps infecté. Le vieux savant était si préoccupé de le regarder faire qu'il ne manifesta presque pas de surprise en voyant Minnie s'avancer sur le trottoir avec son chapeau, ses bottines et son pardessus entre les mains. « Tu es bien aimable de m'avoir apporté mes affaires, » murmura-t-il d'un ton distrait, en continuant à suivre du regard l'anarchiste qui s'éloignait de plus en plus. « Tu ferais mieux de rentrer, » continua-t-il, les yeux toujours fixés dans la même direction. Cette fois, Minnie fut absolument convaincue du déséquilibre mental de son mari. Aussi prit-elle sur soi de le ramener chez eux en donnant leur adresse au cocher. « Que je mette mes bottines ? Mais certainement, mon ami !» répondit le vieux savant, tandis que le cab faisait demi-tour et que la vue de la silhouette noire se trouvait masquée à ses yeux. Puis, soudain, une idée grotesque lui traversa l'esprit et le fit éclater de rire. « Et pourtant, c'est très sérieux, » dit-il, comme en se parlant à lui-même. « Tu comprends, ma chère amie, cet homme qui est venu me voir ce matin, c'était un anarchiste. « Non, ne t'évanouis pas, sans quoi je ne pourrais pas te raconter la suite. Or, pour m'amuser à l'impressionner, ne sachant pas que j'avais affaire à un anarchiste, je lui ai montré un échantillon de cette nouvelle espèce de bactérie qui infeste les singes, et à laquelle il faut attribuer, je crois, ces marques bleues que l'on remarque sur le corps de beaucoup d'entre eux. Et comme un imbécile, je lui racontais que c'était le choléra asiatique, si bien qu'il s'est sauvé en l'emportant avec l'idée d'empoisonner l'eau de Londres. Et à présent, ne voilà-t-il pas qu'il l'a avalé ? Assurément, je ne puis pas garantir l'effet que cela produira sur lui. Mais tu sais que le petit chat sur lequel j'avais fait des expériences s'était coloré tout en bleu, que les trois petits chiens étaient devenus mouchetés, et que le moineau avait passé au bleu le plus vif. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que je vais avoir un tas d'ennuis et de frais pour refaire une nouvelle préparation de cette bactérie. Que je mette mon pardessus par une chaleur pareille ? Pourquoi ? Parce que nous pourrions rencontrer Madame Jabbers ? Mais, ma chère amie, Madame Jabbers n'est pas un courant d'air. Pourquoi mettrais-je un pardessus par un temps pareil, sous prétexte que Madame... Allons, allons, ne te fâche pas, puisque je le mets là. Ainsi s'achève le microbe volé de Herbert George Wells.